Radio GR.
La radio qui dit plaisir
et loisir.
Radio GR.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio GIR, la radio du gymnase de Renan. Je suis Laurie Cicciardello, votre hôte pour l'émission d'aujourd'hui. Je suis accompagné de votre second hôte pour aujourd'hui, mademoiselle Saskia Petrovic. Bonjour Saskia.
Bonjour à toi Laurie, bonjour à tous.
Comment vas-tu aujourd'hui?
Très bien, et toi?
Mais très bien, merci.
Avant de commencer, en fait, j'avais juste une question. Connais-tu le manga?
Bah bien évidemment, ce n'est pas moi qui devrais poser la question.
C'est vrai. Et vous, chers auditeurs, connaissez-vous les mangas? Si je vous dis Naruto, Dragon Ball, One Piece ou encore Bleach, ça vous dit quelque chose? N'avez-vous jamais pensé à leur réalisation ou leur origine? Ça tombe bien, car c'est le sujet d'aujourd'hui.
C'est exactement ça, Saskia. Mais avant de commencer, écoutons un petit extrait musical qui, j'espère, te fera plaisir et plaira à nos auditeurs et auditrices. Vous venez d'entendre l'opening de Dragon Ball Super intitulé Limit Break X Survivor. Je sais pas pour toi, mais c'est vraiment un de mes openings préférés de cet animé. Mais sans plus attendre, je te propose de nous présenter le programme d'aujourd'hui.
Alors, pour la suite de l'émission, nous allons procéder ainsi. Tout d'abord, la chronique numéro 1, qui portera sur l'origine du manga. Ensuite, la chronique numéro 2 sur l'adaptation d'animé. Il y aura aussi une petite publicité très intéressante, suivie d'une interview avec un youtubeur suisse que l'on a eu la chance d'interviewer, Carmine. Et nous conclurons sur un récapitulatif de notre émission et les aspects importants.
La radio qui dit plaisir
et loisir.
Radio GIR.
Alors Loris, commençons par les bases. Peux-tu nous expliquer ce qu'est un manga? Je doute que tout le monde le sache.
Oui, bien sûr, avec plaisir. Un manga est une bande dessinée japonaise, principalement en noir et blanc. Et c'est en petit format, il me semble, contrairement à nos bandes dessinées classiques. Et il se lit de droite à gauche.
Oui, exactement. Alors, le manga comporte généralement plusieurs volumes et il en existe de tout type. Est-ce que tu en connais au moins un?
Pour être honnête, je me suis jamais vraiment intéressé au nom qu'on leur donnait, mais il me semble qu'il y en a un qui se nomme Shonen.
Oui, oui, c'est déjà bien. Alors, il en existe plusieurs, dont les plus connus sont le shonen, destiné aux adolescents, le shoujo, destiné à un public féminin adolescent, le seinen pour les jeunes hommes adultes, josei pour les jeunes femmes adultes, et le kodomo, qui est destiné à un public de 6 à 11 ans. Bien sûr, cela n'interdit pas les filles à regarder des shonen et les garçons à regarder des shoujo. Ça va de soi.
Normal, ce n'est pas parce que c'est pour un homme, entre guillemets, que les femmes ne peuvent pas en regarder. Tu as tout à fait raison. Et je suis sûr que tu as dû en regarder plein de shonen.
Bah oui, tu as raison, notamment un de mes préférés, Naruto. Il me semble que ton préféré, c'est Dragon Ball, non?
Oui, j'adore aussi, effectivement. C'est aussi un shonen, je crois, j'imagine, vu qu'il y a énormément d'action.
Effectivement, c'en est un. Tu vois, c'est facile de les classer. Il y a aussi plusieurs genres, comme tout livre et toute bande dessinée. Le choix est donc très large. Maintenant, qu'on en sait plus, est-ce que tu sais ce que signifie le mot manga?
Alors, là, pour être honnête, pas du tout. Peux-tu nous l'expliquer, s'il te plaît?
Volontiers. Le mot manga est composé de deux kanji, c'est-à-dire deux caractères chinois, le man et le ga, les deux regroupés pourraient signifier image dérisoire ou dessins grotesques qui représentent des personnages aux expressions désagréables et aux gestes comiques. En 1814, c'est le peintre, dessinateur, sculpteur et aussi grand maître de l'estampe japonaise, Katsushika Hokusai, né en 1760 et mort en 1849, qui a uni ces deux kanji afin de donner un nom à ses recueils de caricatures et de croquis.
Ah, donc il y a eu quelque chose qui a précédé le manga actuel. Des caricatures, si j'ai bien compris.
Oui, exactement. Alors, je vais expliquer tout ça. Pour se mettre dans le bain, on remonte au XIIe siècle. On se situe au Japon et tout commence avec les emakimono, aussi appelés emaki, qui sont des rouleaux horizontaux en papier faits à partir d'encre d'une hauteur de 30 cm. Ils sont peints à la fin de l'époque Heian, de l'an 794 à 1185.
Attends une seconde, c'est quoi l'époque Heian ?
Très bonne question. Je n'ai pas expliqué, mais c'est pour voir si tu suivais. Mais bon, je continue. Du nom complet Heian-kyo, qui signifie « capitale de la paix », et représentant Kyoto à l'époque, c'est une période où la culture et l'art se sont énormément développés, et c'est aussi un des sommets du pouvoir impérial dans l'histoire japonaise.
Et pourquoi ces rouleaux peints au XIIe siècle sont-ils si importants ?
Ça vient, écoute. Déjà, ces rouleaux réalisés au XIIe siècle ont un nom. Ces caricatures représentant des animaux avec des attitudes humaines sont appelées des chojuchiga.
Ça va un peu vite, mais si j'ai bien compris, les chojuchiga sont des représentations d'animaux copiant des gestes humains, mais ces rouleaux-là sont en fait des emaki. C'est bien ça ?
Tu as tout compris.
Et dis-moi, il n'y a pas un mot qui représente ces animaux sous des traits humains ?
Bien sûr qu'il y a un mot, c'est anthropomorphique. C'est le mot du jour.
D'accord. J'ai juste une question. Que sont devenus les rouleaux et il y en avait combien à peu près ?
On n'en connaît que 4 à nos jours. 2 d'entre eux sont au Kozan-ji, un temple bouddhiste à Kyoto, et les 2 autres au Musée national de Tokyo. Et d'ailleurs, je tiens à rajouter que ce n'est pas parce que ces rouleaux sont très anciens qu'ils sont oubliés de nos jours. Beaucoup d'artistes s'en inspirent encore et notamment des studios d'animation tels que Ghibli.
Wow, c'est vraiment impressionnant, mais dis-moi, peux-tu nous raconter comment certains genres sont apparus ? Il y en a que tu n'as pas cité, mais qui sont quand même importants.
C'est vrai, grâce à M. Hokusai et ses caricatures, 2 grands genres se sont développés. Le Chunga, réunissant les dessins érotiques et devenant les hentai du manga moderne. Il y a aussi les Ukiyo-e, qui sont des estampes japonaises, ainsi que les illustrations de yokai, de fantômes en français, inspirés du folklore qui deviendront les mangas d'horreur vraiment très aimés de nos temps.
Je vois, mais en soi le manga est assorti à quoi ? Ça a l'air plutôt complexe tout ça. Mais était-ce bien vu ?
Oui, le manga était lié à l'humour et à la légèreté, comparé à maintenant où les mangas peuvent aussi dénoncer certaines maltraitances ou certains abus de la société.
J'imagine que par la suite ça a évolué et ça a pris de l'ampleur et on arrive finalement en 2020 où le manga est très apprécié par la population et généralement dans tous les pays.
Exactement, et ça ne finira pas d'évoluer, je peux te le dire. Surtout qu'avec toutes les nouvelles sorties, ça intrigue et touche un public plus large d'année en année. Il y en a pour tous les goûts et si certains de nos auditeurs ne l'ont jamais vu ou lu, je vous conseille d'en essayer au moins un.
Qui sait, vous pourrez peut-être adorer et rejoindre le monde fantastique des mangas.
Tout à fait. Et avant de passer à la prochaine chronique, voici Peace Sign, l'opening numéro 2 de My Hero Academia. Allons-nous parler pour cette seconde chronique, Loris ?
Eh bien, puisque tu as évoqué tout à l'heure les origines du manga, je te propose de continuer sur cette lancée en parlant de l'adaptation d'un manga en animé. Mais avant cela, je vous propose un petit lexique au cas où vous n'aurez pas encore compris les différents termes utilisés durant cette émission.
Nous t'écoutons avec attention.
Il y a 3 thèmes fondamentaux. Le premier, opening, qui signifie générique de début. Le second, ending, qui signifie générique de fin. Et enfin, OST, ou en anglais Official Soundtrack, piste sonore en français. Selon le site Forasunjin Connection, la production d'un dessin animé est complexe. Elle prend du temps, elle coûte cher et requiert les efforts combinés de nombreux techniciens et artistes professionnels spécialisés dans le domaine varié. Effectivement, pour la réalisation d'un film d'animation japonais ou un animé japonais, il faut des moyens financiers, du temps, une bonne cohésion d'équipe, mais surtout beaucoup, beaucoup de patience. Un animé ne se crée pas en une journée, mais en plusieurs semaines, voire parfois plusieurs mois. Cela dépend vraiment de l'équipe à disposition et de la difficulté à réaliser l'animé. Pour la petite anecdote, Dragon Ball Super devait reprendre en décembre 2019, après un an de préparation. Et il est toujours en réalisation. Comme quoi, même si on est régulier dans le travail, on peut être facilement retardé par la grosseur de l'animé.
Avant de nous expliquer comment on passe d'un manga papier à un animé, tu peux nous dire ton animé préféré et pourquoi ?
Mon animé favori est Dragon Ball. Et toi, Sasuke ?
Alors, pour moi, je pense que mon animé préféré, c'est Naruto, mais j'aime vraiment beaucoup Sword Art Online aussi. Mais ces derniers temps, il y a Fire Force qui est revenu en force.
Oui, j'en ai entendu beaucoup parler. C'est deux très bons animés également, mais je préfère tout de même Dragon Ball, sans te le cacher. Reprenons. Pour commencer, la production d'un animé se fait généralement en trois étapes, qui comprennent des sous-étapes. La pré-production, la production, la post-production et finalement la diffusion. Chaque étape de la réalisation a un rôle important. D'abord, la pré-production. Lorsqu'on parle de pré-production, on parle de tout ce dont on doit disposer pour la réalisation de l'animé. Script, scénario, en japonais, kinkuon, l'aspect visuel que l'animé aura, le décor, les personnages, en bref, le design de l'animé, setei, en japonais. Ensuite, il vient l'étape du storyboard, ikonte, en japonais. Cette étape est cruciale dans l'adaptation du manga papier au format animé. Certains passages des mangas papier sont enlevés dans l'animé, et le réalisateur doit donc réadapter son animé pour qu'il reste fluide et compréhensible sans les passages qu'il a dû enlever. Dans le cas où l'animé possédera un grand nombre d'épisodes, le réalisateur est aidé par son équipe de storyboarders et même parfois de son metteur en scène, Enshu Suka, en japonais.
Mais pourquoi le réalisateur enlève certains passages qui figurent dans le format papier ?
Mais c'est une très bonne question. Eh bien, tout simplement parce que certains passages passent beaucoup mieux en format papier et n'ont pas le même impact lorsqu'ils sont adaptés en animé. Certaines blagues, par exemple, ou références, passent beaucoup mieux dans un format papier que tu tiens en main que dans un format animé que tu visionnes. Mais il se peut aussi que certains mangas soient adaptés en animé, exactement comme dans le format papier. Mais là, le réalisateur peut décider de rajouter certaines scènes. Donc il prend certaines libertés, et ces certaines scènes apparaissent uniquement dans l'animé. Donc, des scènes qui ne se trouvent pas dans le manga papier.
Ah, d'accord, bah oui, en fait, ça paraît logique.
Mais ça l'est, mais ce n'est pas facile à comprendre, je te l'accorde. Après avoir fait ces étapes préparatoires, il vient le moment de la production. Cela commence par reprendre toutes les étapes de la pré-production en les améliorant. On commence d'abord par produire le layout, en se basant sur le storyboard, Rugenga, en japonais, ou Daishikenga. On dessine les décors, les poses des personnages, leurs mouvements, leurs différents plans. On décide du nombre d'images animées par seconde que l'animé comptera. En bref, on pose les bases. Une fois que le layout est fait, le metteur en scène ainsi que les directeurs d'animation vérifient que le layout correspond à leur idée de base. Il se peut parfois que le layout ne corresponde pas du tout. Dans ce cas-là, le layout est refait de A à Z.
Mais tu nous parles de tout ce qu'il faut faire, mais il faut un studio pour faire tout ça, non ? Tu en connais un, par exemple ? Le plus connu ?
Le plus connu ? Je ne saurais pas vraiment te le dire, mais il y en a de très grands. Il y a par exemple la Toei Animation, qui produit notamment Dr. Stump et Dragon Ball. Il y a Kyoto Animation, qui produit Kuon, la mélancolie de Aori Suzumaya, ou Yuka. Ou encore Shaft, qui produit Madoka, Magica, Bakel, Sayonara et Setsubu Sensei, Arakawa, par exemple.
Merci, et je te laisse continuer, hein.
Merci beaucoup. Pour en reprendre où j'en étais, après avoir refait le layout, il vient ensuite la phase appelée post-clé finale, ou Genga en japonais. On restitue le layout avec les modifications qui lui ont été faites à l'animateur qui ajoute les derniers détails manquants au layout. Puis vient l'étape dite clean et intervalle. On va retracer au propre, à la ligne claire, les post-clés d'animation. Pour cela, on va utiliser des couleurs bien précises. Le noir, par exemple, pour les contours, le bleu pour les zones d'ombre, et les reflets en jaune et en rouge. Il s'ensuit la mise en couleur faite grâce au logiciel le plus connu et bien sûr utilisé au Japon, Rotas. Puis vient l'animation des dessins en 3D, la mise en couleur des décors de l'animé et le compositing, Satsuei en japonais, qui consiste à fusionner toutes les animations 2D et 3D ensemble afin d'avoir un plan homogène auquel on peut ensuite rajouter des effets spéciaux.
Oh, tu as des exemples d'effets spéciaux ?
Bien sûr que j'en ai. Il y en a différents types. Il y a la fumée, les éclairs, la téléportation, les bruitages, les ondes de choc. Il y en a vraiment de toutes sortes. Enfin, vient la dernière étape, la post-production. Mm-hmm. C'est la dernière ligne droite avant la publication de l'animé. La première chose à faire, c'est le montage. Tous les plans sont regroupés pour avoir une succession de plans réguliers. Puis, on ajoute les bons de son. On appelle cela la post-production sonore. Ça comprend le doublage, les musiques et les effets sonores. Tout est choisi et ajusté méticuleusement pour avoir la meilleure qualité sonore. Et pour finir, on réalise le montage vidéo. On y ajoute les génériques, on ajuste les couleurs et on termine le projet en le rendant au format souhaité. Numérique, VHS, DVD ou Blu-ray. On peut voir, suite à cette chronique, que la réalisation d'un animé n'est pas chose aisée. Il faut beaucoup de patience et d'organisation pour avoir un travail de qualité et qui plaise aux fans d'animé. Chaque partie de la réalisation a son rôle à jouer et est d'une importance capitale.
C'est vrai.
Radio Gire.
La radio qui dit plaisir
et loisir. Radio Gire.
Vous êtes toujours sur Radio Gire, la radio du gymnase de Renan. Je suis toujours Loris et je suis accompagné de Saskia Petrovic. Tout de suite, avant de continuer notre émission, je vous propose une courte page de pub.
C'est parti !
Avez-vous déjà rêvé de tout recommencer ? Repartir à zéro et tout changer. Aller à la conquête de l'inconnu. Voyager à travers le temps et à travers différents univers.
Le seul petit risque, 10 ans environ par voyage effectué.
Votre vie ou l'humanité, que choisiriez-vous ? Sortie officielle le 16 novembre 2020.
The Unknown World.
Alors Loris, qu'as-tu pensé de cette pub ?
Très honnêtement, j'ai hâte que ça sorte. Ça a l'air très passionnant.
Moi aussi. Alors sans plus tarder, voici un opening d'animé. Haruka Kanata, l'opening 2 de Naruto. Et je ne sais pas, Loris, ce que t'en penses, mais moi, j'adore.
Très honnêtement, je ne suis pas très musique dynamique autant que celle-ci, mais elle m'a bien plu, franchement.
Tant mieux.
Je la réécouterai volontiers. Tout de suite, je vous propose d'écouter une petite interview de Carmine, un youtubeur suisse qui a travaillé dans un magasin spécialisé dans la vente de mangas sur Lausanne. Et nous écouterons ensuite un autre opening.
Alors, la première question que nous lui avons posée était, depuis combien de temps connaissait-il les mangas ?
Alors, depuis quand je connais les mangas ? Bah, je te dirais, depuis longtemps. Je pense que les premiers mangas que j'ai dû regarder quand j'étais petit, ça devait être les Naruto ou les Détectives Conan. Voilà, c'était vraiment les premiers mangas que j'ai vus. Après, il y a eu les Dragon Ball Z, enfin voilà, tous les classiques, quoi.
Qu'est-ce qui t'a fait découvrir cet univers ?
Bah, la télé, pour commencer, parce que c'est là que tu vois les mangas la première fois. Ensuite, bon là, c'est plus les animés. Après, t'as vraiment le livre, les mangas, quoi. Puis du coup, les mangas, c'est vrai que c'est un truc que je lisais pas quand j'étais petit. Et c'est quand j'ai commencé à travailler chez Miximage, donc qui est un magasin pop culture, manga, jeux vidéo, etc. C'est là que j'ai commencé à lire vraiment, tu vois. Parce qu'avant, j'avais mon cousin qui lisait beaucoup, des amis qui lisaient beaucoup les mangas. Moi, je préférais regarder les animés parce que ça m'intéressait plus. Puis voilà. Puis j'avais la flemme de lire. Du coup, voilà. Ce qui m'a motivé à lire, c'est vraiment le magasin dans lequel je travaille.
Ça t'a permis aussi, du coup, de découvrir de nouveaux mangas et par la suite aussi de t'intéresser un peu plus au format papier qu'à l'animé.
Exactement.
Qu'est-ce qui le fait de regarder ou lire les mangas animés peut nous apporter dans notre quotidien, selon toi ?
En fait, c'est un peu comme, je dirais, les jeux vidéo, le sport ou bien des films. C'est un moyen d'échappatoire, en fait. Donc, c'est vrai que ça sort beaucoup de la réalité. Et puis, nous, des fois, parfois, les gens, ils ont besoin de sortir de la réalité pour oublier les problèmes, pour... voilà, pour penser à autre chose. Et puis, bah, en fait, tu te prends pas la tête, tu regardes ces animés.
Ça te permet de te créer une sorte de petite bulle. Et vraiment, quand t'es dedans, ça te permet de justement oublier ce qu'il y a dans mon extérieur et te réfugier dedans, ouais. Si je comprends bien.
C'est exactement ça, ouais.
À toutes les personnes qui ne lisent pas de manga papier ou ne regardent pas d'animés, comment pourrais-tu les inciter à commencer et propose un top 3 de mangas absolument à lire, selon toi?
Bah, de toute façon, dans la vie, je pense qu'il faut essayer, tu vois. Parce que c'est vrai que... avant de lire les mangas, justement, je me suis dit, je suis pas un grand lecteur, j'aime pas lire. Je préfère écrire, c'est pas pareil. Et du coup, j'ai jamais pris le temps vraiment de lire, à part un manga. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, bah, tu commences à... voilà, si tu tombes sur une histoire qui te correspond, qui te plaît, forcément tu vas accrocher. Que ça soit de la lecture ou que ça soit du visuel, genre un animé ou comme ça. Donc c'est vrai que dans un premier temps, il faudrait peut-être essayer d'en lire peut-être... 2 ou 3. Après, il faut pas lire tout le temps les mêmes délires, les mêmes histoires. Faut vraiment, voilà, une fois tu prends un manga où ça parle que d'action, une fois plus de science, ou ça peut vraiment aller sur tout et n'importe quoi. Et après là, tu peux te faire une idée, est-ce que tu aimes ou pas. Et puis mon top 3, bah, The Promised Neverland, forcément. Après, j'ai pas envie de te dire les classiques, genre Fairy Tail ou comme ça. Je veux pas dire un classique. Donc il y en avait un que j'avais lu, Museum, je crois, ça s'appelle. En fait, c'est l'histoire d'un tueur en série. Et puis en fait, il a un masque de crapaud parce qu'il est allergique au soleil, en fait. Puis il sort que quand il pleut ou des trucs comme ça. Et puis c'est une histoire assez ouf, mais c'est vraiment que pour les adultes. Donc c'est vraiment pas pour les enfants. Donc The Promised Neverland, Museum. Et puis en troisième, c'est 50 nuances de gras.
50 nuances de gras.
C'est extrêmement drôle, en fait. C'est une elfe qui vient dans notre univers, si tu veux. Et puis elle découvre en fait la nourriture de chez nous, donc les frites, les burgers, les machins, parce que tout ça elle a pas ça chez elle. Du coup elle est monstre bonne, si tu veux. Puis elle arrive ici, puis elle mange tout, du coup elle devient grosse. Okay. Puis elle va voir un médecin en mode comment je fais pour perdre ça, pour perdre. Puis il lui explique, faut faire un régime, faut manger de la salade. Puis elle dit mais je comprends pas comment vous faites, c'est tellement bon les frites, les burgers, j'ai pas ça chez moi, machin. Enfin bref, elle perd du poids au bout d'un moment, puis elle repart dans son univers. Puis en fait, le médecin, plus tard, il la revoit chez eux, puis elle est de nouveau grosse. Puis elle dit, ouais, j'ai pas pu résister, je suis parti 2 semaines, je suis revenu, parce que chez nous, c'est pas épicé, t'as pas de goût, alors que chez vous... Enfin, c'est assez marrant, c'est vraiment l'histoire d'une elfe qui est plutôt bonne. Mm-hmm. Puis en fait, elle vient chez nous pour se goinfrer, puis elle devient grosse à chaque fois. Puis après, elle veut perdre du poids, mais voilà, c'est assez marrant, quoi.
Bah écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On te souhaite une très bonne lecture de manga ou un très bon visionnage d'animation japonaise. Et à très bientôt, j'espère.
Bah, j'espère, à bientôt.
Tameo, Tobas Momozel, no Popito, Teno, the Caramono.
Vous venez d'écouter le dernier opening de cette émission, malheureusement. Alors, c'était Inferno, l'opening thème de Fire Force. Et je ne vais pas te le cacher, Loris, je viens de finir cet animé et franchement, c'est un coup de cœur. Je te le recommande fortement.
Ah bah, c'est super gentil, je pense que je vais y jeter un coup d'œil.
Yes, t'as intérêt.
Nous arrivons à la fin de notre émission sur les mangas et l'animation japonaise. Nous avons pu en apprendre plus sur les origines du manga et le passage du manga papier à l'animé. J'espère que cette émission vous a plu. Qu'as-tu trouvé d'intéressant, Saskia, dans cette émission ?
Alors moi, ce qui m'a beaucoup surprise, c'est ce que tu as dit sur l'adaptation du manga papier à l'animé. À vrai dire, je ne pensais pas qu'il y avait autant de travail derrière. Et toi ?
Personnellement, j'ai bien aimé en apprendre davantage sur les origines du manga et quelle a été l'idée de base du manga, sa conception et toutes les étapes précédant le manga actuel d'aujourd'hui.
Je vois.
On remercie l'équipe technique composée de Vania Martins et Jovan Stojanovic, sans qui cette émission n'aurait été si fluide.
On tient à remercier Carmine de nous avoir accordé son temps, malgré son emploi du temps très chargé. Et je te remercie aussi, Loris, d'avoir animé cette émission avec moi.
Mais je te remercie également, Saskia, ça a été vraiment un plaisir d'animer cette émission avec toi. Et merci de m'avoir accompagné. Et on remercie également vous, très chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis jusqu'au bout.
J'espère que vous avez apprécié cette émission et je vous souhaite une très belle journée à tous. Et
sayonara. Radio Gir.
La radio qui dit plaisir
et loisir.
Radio Gir.